Bonjour chez vous, chers auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Eric Manilakis en votre compagnie. Carrefour Science et Santé s'articule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nombreux parmi vous sont familiers à l'utilisation des réseaux sociaux. Chaque application a sans doute son utilité spécifique. Il s'est avéré que les réseaux sociaux sont utilisés par toutes les catégories, les jeunes, les adultes, les hommes politiques, etc. En page santé, la fièvre jaune en RDC, la grippe aviaire au Cameroun et bien d'autres sujets. C'est tout de suite dans Carrefour Science et Santé. Bienvenue à tous. L'actualité oblige. Nous débutons notre magazine par la RDC où l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré plus de 1000 cas suspects de fièvre jaune. La majorité de ces cas sont des hommes et ils sont principalement âgés entre 20 et 34 ans. Idriss Fall.
En République démocratique du Congo, plus de 1000 cas suspects ont été signalés depuis le mois de mars. En Angola, plus de 3000 depuis décembre et au moins 400 décès. Des cas sont aussi signalés en Ouganda et au Kenya. La fièvre jaune est une maladie incurable et le vaccin est le seul moyen pour se prémunir. 18 millions de vaccins ont déjà été distribués dans ces trois pays. Une dose normale de vaccin contre la fièvre jaune peut protéger toute une vie, mais pour une ville comme Kinshasa qui compte plus de 12 millions d'habitants, une vaccination de masse est quasi impossible. Tarek Tazarezi, porte-parole de l'OMS, a déclaré aujourd'hui qu'en cas de pénurie, il est recommandé d'administrer un cinquième de la dose qui permettrait de garantir l'immunité pour au moins une année. Le stock actuel est de quelques 6 millions de doses de vaccins. Il n'y a pas moyen d'accélérer la production. La fabrication du vaccin contre la fièvre jaune prend environ 12 mois. Pour le moment, l'Institut Pasteur, le Brésil, la Russie et Sanofi, usine pharmaceutique française, sont les seuls fabricants au monde.
De la RDC, nous restons en Afrique centrale. La fièvre avicole au Cameroun, grosse exportatrice vers cette région, est sinistrée par la résurgence de la grippe aviaire H5N1 qui touche 3 des 10 régions du pays et met en péril de nombreux élevages. Depuis le 25 mai, date à laquelle le gouvernement a annoncé la découverte d'un foyer de H5N1 dans un élevage à Yaoundé, le secteur est paralysé. 3 régions sur les 10 que compte le Cameroun sont déjà touchées et le risque de voir d'autres régions attaquées existe. John Lindon a posé cette question et bien d'autres à Bernard Ndjonga, président du CRAC, Croire au Cameroun et président d'honneur de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs ACDIC, principale organisation paysanne du pays.
Si on favorise la propagation de la maladie dans toutes les régions, la maladie va y arriver. Quand je vois l'attitude du gouvernement, je pense qu'il y a un peu d'irresponsabilité dedans. Et c'est ça qui nous fait peur. C'est qu'on ne mobilise pas suffisamment de moyens pour prendre un ensemble de dispositions qui non seulement empêchent la propagation de la maladie, mais aussi sauvegardent la filière agricole. Parce que voyez-vous, on joue sur plusieurs tableaux, sur le tableau économique, on joue sur le tableau social, sur le tableau sanitaire. On joue aussi sur le tableau environnemental.
Est-ce qu'il y a un moyen de compensation en ce moment?
Il n'y a absolument pas de disposition qui soit prise pour qu'on puisse envisager un quelconque dédommagement. Et c'est ça qui est douloureux.
Est-ce que ce qui se passe au Cameroun a des répercussions sur les autres pays de la région?
Mais bien évidemment, parce que voyez-vous, le plus grand bassin agricole du Cameroun, l'Ouest Cameroun, c'est 80% de la filière agricole nationale et c'est 60% de la filière agricole sous-régionale.
Alors, que fait la société civile à laquelle vous appartenez?
Alors, nous travaillons sur plusieurs plans. Bon, déjà, le premier plan, c'est de mettre le paquet sur le gouvernement pour qu'on se rassure de la manière avec laquelle le virus est arrivé au Cameroun. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, on se pose des questions sur l'origine de ce virus au Cameroun. Ça, c'est de mettre la pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils puissent envisager une indemnisation des producteurs. Troisième plan, mettre la pression sur les pouvoirs publics afin qu'ils ne puissent pas envisager la réimportation des coupes de poulet congelées au cas où il y avait pénurie du poulet au Cameroun à l'heure actuelle. Évidemment, nous participons aussi à l'éducation des consommateurs.
Alors, est-ce qu'on peut toujours consommer du poulet au Cameroun en ce moment?
Oui, bien évidemment, on peut consommer du poulet si on prend un minimum de dispositions. Premièrement, il ne faut pas que ce soit un poulet qui est mort, dont la mort n'est pas connue. Un poulet mort, il faut l'exclure. Deuxièmement, quand on a un poulet vivant, qu'on tue et qu'on veut le consommer, il faut se rassurer qu'on l'a très bien cuit.
Bernard Ndjonga, président du CRAC, président d'honneur de ACEDIC au Cameroun. Après cette transition, partons en Guinée, où les femmes ne décident pas de leur santé reproductive. Les sujets qui portent sur le sexe sont tabous dans de nombreux ménages. Une situation entretenue et voire aggravée par des pesanteurs sociales. Le point avec Zakaria Kama.
Les hommes, pour la plupart, n'acceptent pas l'espacement des naissances par la prise des produits contraceptifs. C'est le cas d'Abdoulaye, commerçant.
Moi, j'apprécie pas beaucoup parce que quand le désir est là, j'ai envie de le faire et je dois le faire. Raison pour laquelle je me suis marié, je sors pas chercher les femmes ailleurs. Autant que Dieu nous donne, autant nous recevrons à bras ouverts ces enfants. Donc, du coup, la limitation de ces enfants, moi, je l'aime pas. Je l'aime pas trop. Quand on se réfère à la religion, c'est aller à l'encontre de la religion.
La religion, l'un des facteurs défavorables à la planification familiale.
La plupart de nos femmes sont analphabètes, donc elles ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs, surtout leurs droits.
Boubacar Sidi Diallo, médecin-chef adjoint de la maternité du centre médical communal de Ratoma, entend au quotidien les plaintes des femmes.
Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de leur mari. Quand ils leur parlent de la planification familiale, elles vont dire « Attendez, docteur, je vais aller d'abord demander à mon mari. » Est-ce qu'il est d'accord? Ça veut dire que les femmes ont peur de leur mari pour la planification familiale.
Donc souvent, je me casse de mon mari pour faire mes planifications avec l'avis de mon médecin. Parce que mon mari, bon, il n'y a pas une communication sexuelle entre nous. Il ne me demande pas quand est-ce que je veux avoir des enfants, quand est-ce que je veux faire l'amour. Vous voyez, c'est vraiment compliqué dans le foyer.
C'est beaucoup plus compliqué pour cette autre dame, la quarantaine.
Il me dit à chaque fois, si tu te planifies, que Dieu te fasse ça, que Dieu te fasse ça. Donc, il me ménage chaque fois, même au moment où je ne veux pas, comme si les jours de danger, là, je ne veux pas avoir de rapport, c'est forcé parce que il y a une certaine idéologie dans la tête de nous femmes africaines, surtout musulmanes, que si ton mari te demande le lit, si tu refuses, que Dieu va te maudire. Donc, avec cette idée-là dans la tête, on est obligé, même si on ne veut pas avoir en ce moment d'enfant.
Conakry Zakaria Kamara pour La Voix de l'Amérique.
Découvrons à présent un appareil qui permet d'examiner le col de l'utérus. Le docteur Nkosi Dila Dambita est le concepteur de cet appareil. Félix Yepassi Zembro s'est entretenu avec lui. Restez à l'écoute pour comprendre son utilisation.
Docteur, vous avez mis en place un appareil pour l'examen du col de l'utérus. C'est quoi exactement cet appareil qui se dénomme EVA System?
Je vous remercie de nous donner l'occasion de parler du système EVA. En français, c'est l'examen visuel accentué, avancé, si vous voulez. C'est notre traduction, mais en anglais, c'est Enhanced Visual Assessment. Et ça permet d'identifier, de détecter les lésions précancéreuses du col utérin et aussi le cancer, avec la même sensitivité, la même spécificité qu'un colposcope sur plateforme hospitalière. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir mettre ça à la disposition du personnel médical, parce que c'est un colposcope qui n'a pas besoin d'expertise spécialisée pour son usage. Après une formation d'un jour, un technicien de la santé, un infirmier, tout autre médecin, pas seulement les gynécologues, peuvent utiliser cet appareil-là.
Et docteur, ce colposcope a-t-il déjà fait son entrée en Afrique?
En Afrique, oui. On a commencé nos essais à Nairobi, au Kenya, et le gouvernement a adopté ça dans leur stratégie de dépistage du cancer du col utérin. Et nous avons été invités par le gouvernement, par la Côte d'Ivoire pour venir faire une démonstration et aussi former les techniciens sur l'usage de cet appareil.
Mais quelles sont les particularités de ce colposcope par rapport au colposcope traditionnel ?
Bon, dans un premier temps, il est portable parce que c'est un smartphone, c'est un téléphone portable auquel nous avons ajouté une lentille qui peut agrandir jusqu'à 100 fois l'objet visualisé et avec une source lumineuse aussi très intense, et ça permet d'identifier les lésions, et en plus de ça, les images sont automatiquement travaillées par l'intelligence du système qui les compare avec toute une bibliothèque d'images, hein, et peuvent déjà aider le technicien en cas de doute diagnostique, à faire ce diagnostic. Et aussi, ça donne la possibilité de faire une téléconsultation avec des experts qui peuvent être aux États-Unis, en France, en Israël, un peu partout.
En Afrique aussi.
En Afrique aussi, bien sûr.
Point de vue coût, docteur, le prix est assez abordable quand même par rapport
au
traditionnel.
Oui, c'est ça la beauté de cet appareil, parce que c'est une petite fraction de ce qu'un colposcope hospitalier coûte. Pratiquement le prix d'un un ordinateur portable. Alors vous avez cet appareil-là. Et notre objectif est de veiller à ce que partout où on aura besoin de cet appareil pour aider à identifier les cancers du col utérin, qu'on puisse l'utiliser. Et ça peut être amené dans une zone rurale et il y a une autonomie de plusieurs jours en fait avec cet appareil, et nous pouvons finalement pouvoir combattre le cancer du col utérin.
Docteur, vous êtes d'origine centrafricaine. Avez-vous un message à lancer en direction des autorités de votre pays?
Oui, en tant que centrafricain avec ma participation dans le développement de cet appareil, j'aimerais en faire bénéficier mon pays d'origine, qui est la République centrafricaine. Nous avons pris contact avec des collègues qui sont sur le terrain. Et je suis sûr que le temps que le nouveau gouvernement puisse s'asseoir, ils pourront, j'en suis certain, nous faire appel de manière à ce qu'on puisse faire une démonstration et insérer ça dans la stratégie contrôle du cancer en République centrafricaine.
C'est une avance et une révolution dans le domaine médical en ce qui concerne l'examen du col.
Oui, c'est une révolution et il y a encore beaucoup d'autres révolutions, et c'est un moment vraiment fantastique d'être dans la pratique de la médecine.
En tout cas, bravo docteur, et puis bonne chance, hein, bon vent à cette nouvelle révolution, hein, IVA System. Hein.
C'est moi qui vous remercie.
On clôture cette page santé avec le retour du coton conventionnel dans le pays des hommes intègres. En réalisant qu'il filait d'un mauvais coton OGM, le Burkina a fait l'option de l'abandonner pour renouer avec le coton conventionnel. Ainsi, en prélude à la campagne qui va s'ouvrir à la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, a organisé des forats avec les contoculteurs en vue de les écouter et galvaniser les préoccupations exprimées. Zoumana Onogo à Ouagadougou.
Après l'annonce de l'abandon du coton OGM, la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, est allée à la rencontre des cotonculteurs, histoire de savoir si la mayonnaise du coton conventionnel va prendre. Écoutons le bilan des rencontres avec les conseillers techniques Aboubacar Sey.
Ce sont 21 équipes qui ont sillonné 228 villages pour échanger à bâtons rompus avec 20 615 producteurs provenant de 6 043 groupements de producteurs de coton GPC. Les préoccupations phares ressorties lors de ces forats se résument à ce qui suit. La mise en place à temps des intrants agricoles, la disponibilité à temps de la semence en quantité et en qualité, ainsi que la construction de stocks tampons de semences dans les villages. La protection phytosanitaire des cotonniers pour la mise à disposition à temps de bons produits insecticides et un besoin en formation sur ce thème d'actualité au regard du retour à 100% du coton conventionnel. Sur ce point, les producteurs ont marqué leur adhésion à l'objectif de production de 600 000 tonnes de coton graines consigné dans le plan d'action. En témoignent les 12 000 hectares de superficie complémentaire enregistrés.
Nous avons voulu entendre de la bouche des cotonculteurs ce qu'ils pensent de ce retour au coton conventionnel. El Hadj Tayirou Fofana, le vice-président de l'UNPCB, Union nationale des producteurs de coton du Burkina, a dit ceci.
Ceux qui ne pouvaient pas produire le conventionnel, c'est ceux, les personnes âgées, c'est eux qui ont l'inquiétude. Parce qu'actuellement, si tu n'as pas des jeunes qui peuvent traiter ça, toi, à ton âge, tu ne peux pas porter l'appareil. Les jours de traitement, c'est un appareil de 16 kilos que tu portes. C'est de deuxième âge-là. Ils ne pouvaient pas le faire. Tu sais, le maïs, tu laboures, tu sèmes, tu ressacres, tu mets l'engrais, c'est tout. Donc le CGM était devenu comme ça. On en a fait tout le tour de Burkina. On a expliqué de A à Z aux producteurs. On n'a pas refusé totalement. Non, non, c'est un pas en arrière pour qu'ils viennent. C'était de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la file soit longue. Seulement, si Monsanto a pu faire ça là et que nous gagnons nos bains, c'est un marché.
Pour le directeur général de la Sofitex, la vraie bataille est celle qui doit être menée contre les parasites du cotonnier. On écoute le DG Wilfried Yameogo.
Depuis le jour où on a dit qu'on fait du 100% conventionnel, les chenilles qui sont en terre là sont en train de jouir de ce qu'il y a à manger. Elles n'auront pas à manger, si Dieu le veut. Voilà, elles n'auront pas à manger parce que nous allons travailler, voilà, nous allons nous appliquer sur la protection phytosanitaire pour ne pas leur donner de chance de détruire les exploitations cotonnières.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Eric Manilakiza, toujours en votre compagnie. Nous abordons la science dans cette seconde partie de notre magazine. Les nouvelles technologies ont introduit les réseaux sociaux dans le domaine de la communication. Maëlys Seguel a essayé de faire une sélection des réseaux sociaux et des applications mobiles très connues par un grand public. La plus utilisée à travers le monde et plus particulièrement sur le continent africain, c'est bien évidemment Facebook.
Plus d'un milliard d'utilisateurs actifs quotidiens pour ce réseau social qui est né dans une université américaine. À l'époque uniquement réservée aux étudiants de Harvard, Facebook devient accessible à tous en septembre 2006. Le créateur Mark Zuckerberg devient millionnaire très rapidement après l'explosion de son invention. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont un accès facile à Internet ne passent pas plus d'une journée sans actualiser son fil d'actualité. Pour certains, c'est une manière de garder le contact avec la famille ou les amis qui sont loin. Pour d'autres, c'est une manière de redorer son ego. Et pour d'autres encore, Facebook permet de rester informé de l'actualité grâce aux articles partagés toute la journée par les pages des médias. Si Facebook a réellement changé quelque chose dans la vie des internautes, c'est bien la manière de communiquer et de s'échanger des données au quotidien. C'est aussi surtout l'émergence d'Internet qui a permis cela.
Et Facebook est très utilisé en Afrique, n'est-ce pas Maëlys ?
Oui, en Afrique, la plupart des utilisateurs de Facebook s'y connectent via leur téléphone mobile, ce qui coûte moins cher qu'un ordinateur. Il y a en tout en Afrique près de 60 millions d'utilisateurs, le plus en Égypte, Afrique du Sud, Maroc, Algérie, Nigeria et Ghana. Petite anecdote, l'Algérie vient de lancer le premier programme de désintoxication à Facebook de l'Afrique.
On passe maintenant à Twitter, un réseau social également très utilisé à travers les pays d'Afrique.
Pour beaucoup, c'est une manière de s'exprimer sans risquer trop de répression. Il est possible de se créer un pseudo et de converser de manière tout à fait anonyme. Beaucoup d'entrepreneurs africains utilisent également Twitter pour se faire connaître et accroître leur réputation online. Avec plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde, le petit oiseau bleu n'autorise que des messages de 140 caractères. Environ 1,6 milliard de tweets ont été publiés en Afrique en 2015, principalement en Égypte. Face aux médias parfois corrompus du continent, l'information s'échange très souvent sur Twitter entre internautes pour savoir ce qui se passe vraiment. On peut y discuter de l'actualité, la commenter et y apporter son point de vue. Les sujets préférés des Africains, c'est la politique. Une étude anglaise de Portland a analysé près d'un milliard de tweets africains. Que disent-ils ? Bien que les tweets sur le showbiz et le divertissement aient dominé les conversations en 2015, les discussions politiques ont augmenté pour atteindre 10% des tweets. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Burundi et l'Égypte ont été les pays les plus actifs à cet égard. Alors, chers internautes, à vos tweets.
C'est maintenant le tour de WhatsApp. Contrairement à Facebook et Twitter, ce n'est pas un réseau social, mais une application mobile avec un système de messagerie instantanée utilisé par un milliard de personnes, le Maïlis.
Oui, exactement. 73% des Africains préfèrent utiliser WhatsApp plutôt qu'envoyer des textos par SMS en raison du prix élevé des messages textes. L'application WhatsApp n'a besoin que d'un réseau Internet pour fonctionner et surtout, elle est gratuite. Il est également possible de passer des appels via l'application, mais ça ne sert pas seulement à communiquer. Beaucoup utilisent l'application pour organiser des événements, pour rencontrer de nouvelles personnes. Alors finalement, toutes ces caractéristiques sont également celles d'un réseau social. On peut donc considérer, même si elle n'est pas nommée comme telle, que WhatsApp est aussi un réseau social. Et ce n'est pas tout. On peut faire un achat via WhatsApp. 25% des Africains l'ont déjà fait. En 2014, l'application est rachetée par Facebook à 22 milliards de dollars. Ils voient en elle un concurrent face à la messagerie instantanée de Facebook Messenger.
Et on finit avec LinkedIn, le plus grand réseau professionnel mondial, comme il se décrit lui-même.
En effet, Eric, 400 millions de membres, même si beaucoup disent ne pas vraiment comprendre à quoi cela sert. Pour moi, personnellement, LinkedIn agit comme un CV à ciel ouvert sur Internet, que tout le monde peut consulter, et avec lequel on peut entrer en contact avec moi si besoin. LinkedIn me permet également de mettre en ligne des articles ou des émissions que j'ai réalisées, ce que ne me permettrait pas un CV papier. C'est donc un outil multimédia qui permet de promouvoir un parcours individuel pour créer un réseau professionnel. On n'utilise pas LinkedIn comme on utilise Facebook ou Twitter. Ce n'est pas un réseau social dont on actualise la page sans cesse et où l'on va tous les jours. C'est plutôt le moyen de se faire des contacts à travers le monde de manière professionnelle. Certains disent que LinkedIn, c'est le Facebook en costard-cravate. Voilà donc quelques réseaux sociaux dont on voulait vous parler. À ne pas oublier également les réseaux sociaux visuels comme Instagram, Snapchat ou Tumblr, vidéo avec YouTube, Vimeo et Periscope, ou encore ceux pour communiquer comme Skype, Google+, et Reddit par exemple.
Avant de nous quitter, un nouveau logiciel pour détecter les contenus extrémistes sur Internet. En effet, les djihadistes tentent de plus en plus de médiatiser leurs attaques et la diffusion en direct sur des sites en streaming de leurs sanglants forfaits. Place sur les réseaux sociaux face à un dilemme. Ne pas cautionner sans généraliser la censure. L'outil permettrait ainsi, par exemple, d'éliminer la diffusion virale de vidéos montrant des décapitations ou des tueries comme celle produite par l'EI. Le logiciel en est à ses derniers stades de développement et sera en mesure d'être déployé dans les mois à venir. Lionel Gahima.
Ce nouveau logiciel dévoilé vendredi va permettre d'aider les acteurs d'Internet à repérer rapidement et à éliminer les contenus extrémistes destinés à inciter à la violence, utilisés notamment par les djihadistes du groupe État islamique, pour pousser à commettre des attentats. Le projet Contre l'extrémisme, organisation non gouvernementale basée à Washington, propose d'utiliser son logiciel de la même manière qu'un outil similaire déjà en action qui permet de repérer les contenus pornographiques infantiles en ligne. Le logiciel a été développé par Annie Farid, scientifique à l'université de Dartmouth, avec notamment un financement de Microsoft. Le nouveau logiciel est lancé alors que le groupe djihadiste tente de faire un maximum de propagande en diffusant en ligne des contenus violents dans le but notamment de recruter des volontaires pour commettre des attentats. Si le système est adopté par des entreprises d'Internet, dont un certain nombre semblent intéressés, ce sera un grand pas pour s'assurer que l'extrémisme en ligne ne nous envahira plus, a ajouté M. Wallace.
Et c'est ici que nous mettons un point final à Carrefour Science et Santé d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas de prier, car prier durant le mois de Ramadan est la plus belle des nourritures spirituelles. La prière nourrit l'âme, alimente le cœur et fait l'homme meilleur. Soyez donc meilleur dans tout ce que vous faites. Merci de votre oreille attentive. Vous étiez en compagnie d'Eric Manirakiza. À bientôt.
Bienvenue à bord.